Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un gros morceau, puisque on voudrait parler de savoir qu'est-ce qui nous fait faire mitzvah ou mitzvah. Mais faut zéba. Et pour ça, c'est-à-dire que là, Manitou va poser une grande question. On ouvre, c'est ce qu'on voulait faire la semaine dernière et on ne l'a pas fait parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur plein de choses. Donc on va le faire aujourd'hui. On va s'appuyer sur l'histoire de la Brit Mila pour essayer de comprendre d'où ça lui vient à Abraham de faire la Brit Mila et d'où ça lui vient à nous de faire la Brit Mila. Alors, la première chose, c'est que si je demande à un juif lambda d'où ça vient à Abraham de faire la Brit Mila, il va te répondre.
C'est Dieu qui lui a
C'est
dit.
Dieu qui lui a dit. C'est pas shoot. C'est marqué dans la Torah. Vezot beriti asher tishmeru beni ubenechem uben zaracha acharecha imol lachem kol zachar. Tzatcheni, quand tu regardes le Midrash, et c'est même ramené dans Rashi, que pourquoi est-ce que l'endroit où Abraham habite s'appelle Eloné Mamré? Mamré, c'est qui? Mamré, c'est un copain d'Abraham. Vous savez qu'Abraham, il a rencontré trois frangins quand il est arrivé en Israël, qui s'appelaient Aner, Eshkol et Mamré. Et donc, on nous dit que cet endroit s'appelle Eloné Mamré. Au nom de Mamré, parce que c'est lui qui a susurré à l'oreille d'Abraham de faire la Brit Mila. Avant que Dieu lui dise. Pourquoi? Parce que lui-même était Maoul. Et là, tu te dis, mais attends, je croyais que c'était que nous, les Brit Milés. Ben non, tu vois que la circoncision est quelque chose qui était déjà connu, je ne vais pas dire forcément répandu, mais qui était connu dans les peuples cananéens. Et donc, il y a même quelqu'un qui a dit à Abraham, ce serait bien que tu fasses la Brit Mila. Et après, il y a Dieu qui lui a dit, bah, écoute, fais la Brit Mila. La Shéla, c'est quelle est la différence entre la Brit Mila que Mamré a fait tout seul et celle d'Abraham? Aujourd'hui, il y a énormément de bébés aux États-Unis qui sont Brit Milés dès qu'ils viennent au monde. Alors, évidemment, je ne parle pas d'une Brit Mila avec bracha, avec tout, machin, mais circoncision. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, c'est une préconisation qu'on dit aux parents, ils ne sont pas obligés, évidemment, mais on leur préconise de faire ça, parce que c'est mieux pour la santé, parce que voilà, plein de maladies, plein de choses. La meilleure preuve que c'est vraiment répandu aux États-Unis, c'est ce fameux épisode de Friends.
Joey.
Évidemment, évidemment, ceux qui se rappellent des années 2000. Donc on a cet acteur, Joey Tribbiani, qui a accepté un rôle dans lequel il est censé être nu, mais sauf que dans le rôle, il est censé ne pas être circoncis, et lui, il est circoncis, et il a dit qu'il n'était pas circoncis, et dans tout l'épisode, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à lui faire repousser une orla, un prépuce, pour le rôle. Enfin, tout ça pour nous dire qu'il n'est pas du tout juif, le mec, dans la série, ni en vrai, ni dans la série. Mais les auteurs de la série, ça leur normal. Le mec, il est circoncis, tout va bien. Oui, parce que dans les États-Unis de ces années-là, on circoncit. Et donc, la question, c'est le bébé goy qui est circoncis parce que c'est bon pour la santé et le bébé de chez nous qui est circoncis, ma evdel. OK? Quelle est la différence? Et la deuxième question qui arrive, c'est moi qui fais la Brit Mila à mon fils, minain li. D'où ça me vient de faire la Brit Mila à mon fils? D'où j'ai appris qu'il faut? C'est-à-dire? Et donc la question, elle est posée. Tout le sujet abordé ici par Manitou, c'est de savoir, est-ce que ce qui nous fait faire les choses, c'est Aïgayon, c'est-à-dire le Sehel, c'est-à-dire la réflexion, c'est appuyé sur des faits scientifiques, ou alors, est-ce qu'il s'agit de révélation? Demain, le combat que les rabbins de Khoutzlaret vont devoir mener, c'est sur la circoncision. La majorité ne le savent pas encore, mais une petite partie sont déjà bien au courant. Une fois que le combat de la Shrita sera terminé, et que soit ils auront gagné, soit ils auront perdu, le prochain combat sera l'interdiction de la circoncision en Europe. Est-ce que vous en êtes conscient?
Pas si interdit que ça.
Pourquoi?
Parce que tu peux très bien faire dans ce cas-là, alors l'ambassade d'Israël ou l'ambassade pour faire toutes les brises.
Ah, tu crois vraiment que l'ambassade d'Israël va ouvrir l'ambassade pour que tous les jours, il y ait des mecs qui viennent faire des britotes? J'aimerais bien voir ça. Et d'autant plus que... Non, tu as raison, qu'on pourrait imaginer un truc comme ça, mais... Enfin, je ne suis pas diplomate international, mais à mon avis... Non, mais ça me paraît... Disons que l'Europe ou la France décident d'interdire la circoncision, je vois mal Israël se mettre en porte-à-faux avec toute la communauté européenne en disant « Chez moi, et ça circoncit. » Parce que la question n'est pas de savoir est-ce que c'est interdit ou pas, la question est de savoir pourquoi ils vont l'interdire. C'est quoi les arguments pour dire qu'il faut interdire la circoncision?
Ils vont dire l'enfant n'est pas conscient, c'est son corps, on ne peut pas toucher.
Les amis, on est quand même en train de mutiler un bébé. Vous me la jouez dans tous les sens que vous voulez, on mutile un bébé. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Allez, je vous donne tout de suite les arguments et les contre-arguments. Donc ils vont te dire, il y en a déjà qui le disent. Hein. Je vous dis, en Suède et en Norvège, ils veulent déjà interdire la circoncision. Bon, pas qu'il y a beaucoup de juifs là-bas, mais quand même. Maintenant, ils te disent, il n'a pas choisi. C'est pas... Attends qu'il ait 18 ans, et s'il a envie de faire, il fera. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
S'il attend 18 ans, après, ce ne sera pas la même chose.
Ce ne sera pas la même chose, mais c'est son choix, c'est son corps. Qu'est-ce qu'il y a?
La seule vraie réponse, c'est la révélation.
Ouais, mais tu peux pas aujourd'hui dire à la Norvège la révélation. C'est quand ils viennent avec un argument des droits de l'homme, tu peux pas leur dire ouais, mais il y a les droits de Dieu. Même s'il faudrait qu'on parle comme ça, mais c'est pas ce qu'ils disent. Aujourd'hui, quand on va te faire le combat de la Shrita, c'est le combat qui est actuel, ils te disent pas c'est comme ça, c'est Dieu qui a dit. Ils essaient de prouver que la Shrita c'est mieux que l'étourdissement, que c'est mieux que.
Essayer de trouver des arguments autres. Que la révélation, c'est s'emmêler les pinceaux, et au final, on n'arrivera jamais à.
Encore une fois, t'as raison. Mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe.
Ouais, alors, je passe
le rayon, mais c'est tout. Ah, ça, toi, tu dis, ça, c'est ton regard sioniste qui te dit, tu crois que c'est vain, qu'Akadosh Baruch Hu, il amène tous ses interdits et tous ses décrets contre les juifs en route de la rette. C'est Baruch que t'as raison. Bon, c'est évident que ça, c'est encore un truc et encore un truc. Mais disons que tu te mets dans la peau du rabbin de Roul, qui est invité sur BFM, qui est invité sur je sais pas quoi, sur CNews, et on lui pose la question.
Bon, on a qu'à leur dire, regardez, on a tous les prix Nobel qu'on a malgré nos circoncisions.
Ouais, c'est pas un argument, ça. C'est pas un argument. L'argument, quand ils te disent comment vous pouvez oser mutiler un enfant sans son consentement, ça, tu dois répondre pas en disant on a des prix Nobel. Ça marche pas.
Faut dire que c'est pour son bien.
Faut dire que c'est pour son bien. Vas-y, plus loin.
Même comme vous avez dit que scientifiquement, il y en a plein qui préconisent la circoncision. Donc pour le bien d'un bébé, j'ai le droit de le vacciner contre la
guerre. Ah, il y a fait. Il est. T'as donné l'argument qui est déjà utilisé dans le sac des rabbins. La vaccination.
Oui.
La vaccination des bébés, on leur rentre un poison dans le corps. Mais on sait que c'est pour leur bien et c'est pour le bien du plus grand nombre. Ah, ok, voilà un argument. Alors très bien, ils vont te dire très bien, j'entends. Je peux entendre cela, mais à ce moment-là, il s'agit d'un acte chirurgical. Donc nous interdisons à tous les moëls de faire la circoncision s'ils ne sont pas chirurgiens. Et seuls les chirurgiens auront le droit d'opérer en milieu hospitalier. Ça s'entend ou ça s'entend pas?
Ça s'entend.
Ça s'entend. Quoi? Ma, en vrai, même pour nous.
Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là.
Ouais, mais c'est un débat dans lequel on n'a pas le choix de rentrer. Pourquoi? Parce qu'on va arriver après à notre révélation. Mais au départ, tu viens et tu dis, attends, tu es en train de me dire que il y a un problème ici. Et puis moi, j'ai déjà été à des Brit Milot et la vérité, tu dis, c'est un miracle. C'est un miracle, quoi. Des fois, tu vois le Moël... Il a beaucoup d'années au compteur, le Moël, des fois. Je te dis, faut pas trembler, hein. ça fait peur, c'est sûr. C'est bien matché, là. Alors quoi, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Tu peux pas répondre à ça. Tu vas prôner l'acte chirurgical dans une synagogue où rien n'est stérile, où rien n'est hygiénique, où c'est un vieux monsieur qui tient le bébé.
Mais amener des arguments comme ça, c'est ridiculiser la Brit Mila, c'est la rap.
Mais toi, t'as raison, mais toi, tu parles en tant que Torah. Moi, je te dis, tu dois faire face maintenant, deux secondes, sors deux secondes de la Torah. Tu dois faire face maintenant au Conseil de l'Europe qui vient te dire, voilà, vous les Juifs de France, on vous interdit la Brit Mila.
Moi, je retire mon discours, je falsifie pas ce que... je leur dis ce que je pense.
C'est interdit qu'un Moël il soit chirurgien ?
Non.
C'est interdit de faire la Brit Mila à l'hôpital ?
C'est vrai, mais
non. Non, non plus.
J'ai pas envie de d'essayer de trouver de restreindre mon
champ des possibles. Voilà. Ouais, bien sûr. Ah oui, parce qu'ils vont te dire, ok, alors là, tu as réussi, tu vas dire, bon, ok, on accepte que c'est qu'un chirurgien en milieu hospitalier. Donc, il y aura beaucoup moins de Moël. La majorité seront au chômage, parce que je ne connais pas beaucoup de chirurgiens Moël, de Moël chirurgien, il faut qu'il soit juif, il y ait Shamaï, mais en plus de sa chirurgien, maintenant, et il faudra prendre rendez-vous à l'hôpital, et puis tu t'imagines, dans le bloc opératoire, tu as toutes les grand-mères marocaines qui sont là, sur qui elles jettent les bonbons. Ça va être compliqué. C'est-à-dire, donc tout ça nous ramène à la question d'Abraham. Aner, Eshkol et Mamré, enfin ici Mamré, il dit à Abraham, fais la Brit Mila. Zetov, regarde la preuve, moi. Mais Abraham, il va faire la Brit Mila, pas parce que Mamré lui a dit. Peut-être qu'il y a pensé grâce à Mamré. Mais au final, la Brit Mila, c'est parce que Dieu lui a dit. Nous, pourquoi est-ce que nous, on fait la Brit Mila ? Parce que Dieu a dit à Abraham ? Ben non. L'Amrot, bien que ce soit une marloquette entre le Rambam et Rabbeinu Saadia Gaon, on est possé comme Rabbeinu Saadia dans ce niveau-là, c'est de savoir est-ce que nous on est mechouyav des mitzvot parce qu'elles ont été données à Abraham, Yitzhak, Yaakov et après Moshe l'en a rajouté, ou est-ce que on est mechouyav des mitzvot parce que Dieu l'a donné à Moshe.
Oui, à Moshe.
Ah, donc c'est pas parce que Dieu il a dit à Abraham de faire la Brit Mila.
Mais c'est dans la même idée que c'est parce que c'est écrit dans la Torah.
Ah. Je vais faire le diouk. Tu vas voir pourquoi je fais un diouk.
C'est un truc bien et du coup on l'a mis dans la Torah.
Je suis d'accord, mais j'ai été plus loin. Dieu il a dit à Abraham de le faire. Donc pour Abraham, pourquoi il le fait ? Pas parce que Mamré lui a dit, mais parce que Dieu lui a dit. Mais moi, étant une fison, pourquoi je fais la Brit Mila à mon fils ? Pas parce que Dieu il a dit à Abraham.
Parce que Dieu l'a dit à Moshe.
Parce que Dieu il a dit à Moshe. Alors, justement, parce que c'est marqué dans le livre de Vaïkra qu'il faut faire la Brit Mila, dans la parasha de Tazria, alors Zemechayev Oti. Pourquoi ? Eh bien parce que l'histoire qui s'est passée avec Abraham, elle est jolie, mais j'étais pas là.
Était pas là, mais en tous les cas,
est-ce qu'on était là
l'histoire de Moshe? Il a fait, je vais pas te la jouer, ouais, notre âme elle était là, et tout ça. Knesset Israël, non. La révélation qui est Mechayevet, qui nous oblige à nous, c'est la révélation du Har Sinaï. Pourquoi? Pas parce que toi et moi on était là au niveau de la Neshama ou pas de la Neshama, mais parce que Dieu ne s'est pas dévoilé là-bas à une personne, mais au peuple juif. Et c'est ça qui donne la véracité du dévoilement. Le fait que Dieu a parlé à Abraham, d'où je sais que c'est vrai ? Parce que Moshe, il l'a remarqué dans la Torah. Et que moi, les Bnei Israël qui étaient là-bas, ils ont entendu Dieu parler à Moshe. Donc pour moi, le seul argumentaire pour expliquer pourquoi je fais telle ou telle mitzvah, c'est la révélation. Et ça, c'est fondamental. Et donc, effectivement, si on veut commencer à pouvoir parler de Torah au monde entier, il faut arrêter de se cacher. Il faut dire « Biglal Shakadosh Baruch Hu » nous a dit. Est-ce que c'est un argument qui est audible ? Non, c'est pas un argument qui est audible. Ou alors, c'est nous qui pensons qu'il n'est pas audible. Eh oui.
Plus que ce qu'on ne le croit.
Bien sûr. Je te rappelle quand même que c'est vrai que la France, elle joue beaucoup la carte de la laïcité. Mais n'oublions pas quand même que le monde occidental est dirigé par les États-Unis d'Amérique, qui marque sur n'importe quel billet de banque « In God we trust », « Nous croyons en Dieu ». Que l'autre grande pôle, c'est le monde arabe, qui est ouvertement croyant et qui cite Dieu toutes les 5 minutes. Donc toi, tu viens et tu as peur de dire les choses parce que on va te prendre pour quelqu'un d'archaïque. Mais à Tchouba, il est je n'ai pas honte de m'inscrire dans la révélation. Parce que c'est ça toute la grande différence entre la Torah et la Chochmat Haïgayon. Entre la sagesse et la logique et la réflexion, qui sont très importantes, et la Torah. Puisque la Chochmat Zemimata Lemala et la révélation Zemimala Lemata. Et nous, nous venons avec un discours très fort qui dit, Rabotai, je ne fais pas parce que je suis arrivé à la conclusion que c'était important. Je fais parce que Kadosh Baruch Hu m'a dit de faire. Ah, parce qu'il m'a dit de faire, alors j'ai été chercher pourquoi c'était important. C'est un sod de la, ce qu'on dit quand on dit Gedol Ametsuve Veose, Meacher Sheino Metsuve Veose. C'est très contre-intuitif à d'avoir dit. C'est plus grand celui qui fait parce qu'il a reçu l'ordre de le faire que celui qui le fait parce qu'il se sent de le faire. Nous, on se dirait intuitivement, mais non, c'est l'inverse. Je rigole, quoi. On m'a obligé. C'est moins fort que si moi, je me suis réveillé à ça tout seul. Sauf que, un, qu'est-ce qu'on nous disait quand on était jeune ? On dit, ouais, mais quand tu n'auras plus envie de faire, alors tu ne feras plus. Oui, mais d'un autre côté, ça ne suffit pas comme argument. Ok, et même quand tu as reçu l'ordre, si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le feras plus. Si tu n'as pas envie, tu ne le feras pas. Mais, Gadol a metsouvé. C'est Gadol qui a metsouvé. Tiens, c'est Gadol. Vous vous rappelez, il y a un Shabbat comme ça qui s'appelle Shabbat à Gadol. Là-bas, on écrit Shabbat à Gadol. Pourquoi il est Gadol ? Le Shabbat à Gadol. C'est le Shabbat avant Pessah. On l'appelle Shabbat à Gadol. Là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ?
Hein ? Pas oublier que c'est Shabbat avant tout.
Ah, tu dis parce qu'on est tellement dans les préparatifs de Pessah qu'il ne faudrait pas oublier que c'est Shabbat. Hop. Nous. Quoi, il y a un peu un risque ? Que quoi, t'aurais mangé de la matzah à ce moment-là ?
Non.
Que quoi ? Que tu étais tellement pris dans ton nettoyage que... C'est ça ? Une quoi la kavod, c'est drachot, c'est mlo, c'est... En vrai. Combien de temps ça dure de nettoyer la maison ?
Ça dépend de la maison.
Non. Non, après, t'as des gens qui font leur nettoyage de printemps. Mais c'est pas une colonne de Pessah. C'est une colonne de Pessah, en 48 heures, c'est réglé. Hein. C'est pas...
Si on fait que le ramet, pas le...
Ben, c'est ce que je viens de te dire, c'est le nettoyage de Pessah. Ah voilà, si tu fais les rideaux, le nettoyage de printemps, tu changes le carrelage, tu refais la peinture, bah, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais en vrai, c'est bien. Qui c'est qui doit vérifier partout dans chaque recoin pour Pessah, s'il y a du Hametz ?
Bah nous ?
Non, pas du tout. Toi, certainement pas. Dans la halakha, il est marqué seuls ceux qui ont des poules chez eux ou slash des bébés, alors ils doivent aller regarder partout.
Ah ouais ?
Bah ouais, parce que les poules sont là avec leurs graines, elles vont se balader partout dans toute la maison. Parce que c'est bien connu qu'on a tous des poules dans la maison. Et ceux qui ont des bébés aussi. C'est vrai que le bébé, il va se balader avec sa gaufrette un peu partout. Mais les gens qui sont adultes et qui n'ont pas de petits-enfants en bas âge à la maison, il n'y a aucune raison de ranger les chambres. Elle est vite fait, comme ça. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir de gaufrette dans les chaussettes. A priori. Donc, la cuisine, tu dois la nettoyer. Donc, tu me dis, on a tellement pris qu'on ne se rappelle pas que c'est Shabbat. Il ira l'y cacher. Il y a des gens qui disent que c'est parce que dans la Haftara il y a marqué Iné Anochi Sholach Lachem et Eliyahu Anavi Lifne Bo Ayom Agadol Ve'Anora. Il y a marqué le mot Gadol dans la Haftara, alors Shabbat Agadol. T'aurais pu l'appeler Shabbat Agibor, Shabbat Anora, mais Shabbat Agadol. Il y a une explication comme ça du Rabbi de Gour, du Sfat Emet, qui dit Zeh apam arishona shenienu gdolim. C'est quoi gdolim?
Metsuvim.
Alors, c'est la première mitzvah que le peuple juif va recevoir. De quoi? C'est quoi la première mitzvah qu'on reçoit? Ne me dites pas le Rosh Chodesh. La première mitzvah qu'on reçoit en tant que peuple juif, c'est quoi? De pas encore le korban, pas encore de shrité, mais de prendre l'agneau et de l'attacher au lit. D'accord ? Ça s'est passé quand, ça ? Le 10 Tishrei. Le 10 Nissan, c'est là. Sauf que comme cette année-là, la sortie d'Égypte, c'était un jeudi. Donc c'était quand ? qu'on a reçu l'ordre de crousser le Bet Avot, c'est la Bait. Shabbat. Donc le Shabbat avant Pessah, c'était le 10 Nissan, et c'est le jour où Dieu nous a ordonné pour la première fois de faire une mitzvah. Donc on est devenu bar mitzvah. On est devenu Gdolim. Ah, c'est Shabbat à Gadol. À Gadol. Qu'il est Gadol que Dieu t'ordonne quelque chose. Ça montre ta grandeur. Donc Gadol a metsouvé veosé, parce qu'il comprend que son action, elle s'inscrit dans le fait qu'il est suffisamment élevé pour recevoir la mitzvah. Ok, très bien. Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'on reçoive la mitzvah? Qu'est-ce qu'il faut pour être maspik dolim? Dieu, il pourrait ordonner à tout le monde. Non. Que des liot metsouvable. Ah, je viens d'inventer un mot. Que des liot metsouvable, il faut être à la base de la morale. Il faut atteindre un niveau de morale qui est suffisant pour qu'on puisse être metsouvable. Nous dit le Midrash, Raou yaya Yaakov avinu shetishre alav shechina, shitaten Torah al yado, aval doro lo haya raoui lekach. Yaakov aurait pu être celui qui donne la Torah, mais sa génération n'était pas prête, n'était pas au niveau. C'est qui sa génération? Kamagoïm. Ils n'étaient pas au niveau. À l'époque de Moshe, est-ce qu'on est au niveau?
Oui.
Oui. Et les Goïm? Oui. Ils n'ont pas reçu, mais ils nous montrent qu'ils sont prêts à ce que nous on reçoive. Comment? Parce que les Goïm ont réussi à produire un mec qui s'appelle Yitro. Ah, les Goïm, ils sont capables de produire un Yitro? Ça baba. Ça veut dire que l'humanité est prête à ce que la Torah soit révélée. Ça veut dire que si tu veux avoir la révélation, il faut une base. Il faut une base de moussard. La Torah, on l'a déjà dit souvent, Manitou le disait, c'était un de ses grands chevals de bataille, la Torah, elle ne te rend pas morale. La Torah, c'est après que tu sois moral. Tu es moral, donc tu peux recevoir la Torah. Si la Torah est donnée à quelqu'un d'immoral, il va devenir encore pire. Ouais. Ah, comment?
Ça peut devenir pire avec la...
Vataille. Je te donne un exemple que tu connais déjà, parce qu'on l'a déjà évoqué souvent. Annie, très religieux. Hein?
Ah, oui.
Vas-y.
Celui qui fait les mitzvot,
tu as raison. Non, vataille, Moussara Kodesh. Parce que, imagine-toi, je te donne un exemple pashut. Moi, je suis religieux. Mais j'adore le Lashon Hara. En même temps, j'ai pas envie de transgresser la halakha. Donc, qu'est-ce que je fais? J'étudie très très bien Ilchot Lashon Hara. Et je me rends compte que finalement, Chafetz Chaim m'a dit qu'il n'y avait pas de Lashon Hara pour les goyim. Donc, j'ouvre un réseau social de Lashon Hara en Chine pour une petite ville de 30 millions d'habitants. Je passe ma vie à faire du Lashon Hara qui sera kasher d'après la halakha, mais je deviendrai un pourri la méadrine. C'est vrai? Donc, il y a le concept qu'on appelle Naval Birshut HaTorah. C'est un pourri avec la permission de la Torah. Un pourri. C'est-à-dire, donc, quelqu'un qui n'est pas bon dans ses midot, regarde, vous avez la chab vorejet, que Talmid chez midota veina magunot, un élève qui n'a pas de bonne midot, en martissim oto le betamidrash. Oto davar pour le rave. On n'a pas le droit d'étudier d'un rave chez midota veina magunot. Il y a en France, il y a toujours les débats, est-ce qu'il faut séparer l'artiste de l'œuvre? Je comprends même pas qu'on puisse débattre de ça. C'est pas chaud que non. C'est pas chaud qu'on ne peut pas séparer. Je sais pas, les Français, ils sont tous fans de l'écrivain Céline, et c'était le plus grand pourri de l'histoire. Mais quel écrivain extraordinaire. C'est qu'un jour. Un Talmid Raham qui écrit des commentaires de folie, mais il bat sa femme ou il la trompe. a été libéré de prison la semaine dernière. Racha Gadol, Amerusha, Ezra Scheinberg. Que Dieu s'occupe de lui. Racha Merusha, Pashut Racha Shen Kedugmato. Un homme qui a trompé la vigilance de ses élèves, qui a couché avec des femmes mariées, qui les a. Terrible, terrible. Rosh Yeshiva, qui a écrit plein de livres. Et des fois des livres très, très profonds. Je ne peux pas continuer à étudier ce qu'il a écrit. C'est pas shoot. Tu ne peux pas étudier avec un mec comme ça. Non, mais tu comprends, faut savoir dissocier l'œuvre de l'artiste. Non, c'est un pourri, c'est un pourri. Maintenant, si tu n'es pas moral et que tu rentres dans les secrets de la Torah, ça va faire de toi un monstre. Donc d'abord, on veut que tu sois moral. C'est la base. Une fois que tu es au niveau, Dieu il peut te parler. La révélation ne peut arriver que lorsqu'il y a un niveau moral de base. Alors, effectivement, ce n'est pas venu tout seul. Nous dit Rabbi Nobachia ibn Pakuda, Besifro Cholot Alvavot, que il faut quand même que Dieu il te donne un push de départ. Sinon, la morale, elle ne va pas se dévoiler toute seule. Nahon, mais il nous a donné Sheva Mitzvot Ben Noach. Sheva Mitzvot Ben Noach, c'est la base de la morale. Les sept lois de Noé, qui sont valables pour toute l'humanité, c'est la base de la morale. C'est ce qui nous permet de commencer à avoir un dialogue possible avec l'Éternel. Donc, nous dit Manitou, donc vous comprenez, toute l'importance de la révélation, c'est qu'on est au niveau de cette révélation, et donc Akadosh Baruch Hu peut nous parler. Et d'où est-ce que moi je tire ma véracité de la Torah et la légitimité de ce que je fais? Parce que Akadosh Baruch Hu m'a dit de le faire. Donc quand tu poses la question « Lama mekaimi mitzvah kazot vokazot ?» Pourquoi on fait telle ou telle mitzvot ? Réponse numéro 1, bah parce que Dieu il m'a dit de le faire. Évidemment que ça ne suffit pas. Évidemment qu'il faut aller chercher plus loin. Évidemment qu'il faut aller trouver des autres réponses parce que sinon ça, ton fils ne satisfera pas de cette réponse-là. Mais c'est la première réponse. Et c'est la première réponse que tu dois donner aussi au Goyim. Bah, d'ailleurs, Manitou se plaisait à rappeler que c'est la première chose que Rashi nous a dit. La première chose que Rashi nous a dit dans la Torah, c'est quoi ? De dire aux Goyim que Dieu nous a donné la terre d'Israël. C'est tellement simple, en fait. C'est tellement simple. Maintenant, imaginons des Juifs, prenons un cas purement théorique, évidemment, mais imaginons des Juifs qui Vaimaasu Beretz Remda. Des Juifs qui renient ce que Dieu nous a dit, mais qui voudraient continuer à être religieux. Au-delà du ridicule de leur comportement, est-ce qu'ils peuvent être crédibles aux yeux du monde? Et donc c'est de ça qu'on parle, les amis. Avraham Avinu, il fait la Brit Mila parce que Dieu lui a dit. Même si c'est bien que Mamré il l'ait faite, même si c'est bien et c'est guioni et il y a énormément de réflexion derrière, il n'empêche que moi, ce qui me motive, c'est le fait que Dieu m'a parlé. Et c'est toute la différence entre Abraham et Shem Ve'ever. Ah, quelque chose de très fort. Shem Ve'ever nous raconte que ils étaient monothéistes aussi. Ils étaient aussi des gens qui connaissaient un peu Dieu. Bizarre, il y avait quand même de l'idolâtrie à leur époque. Et ils ne se sont pas battus contre ça. Pourquoi ils ne se sont pas battus? Pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'Abraham il a fait? Pourquoi ils n'ont pas brisé les idoles? La Malo. Qu'est-ce que vous en pensez? Les mecs, c'est des religes et tout, la folie. C'est eux qui vont former Abraham. Ils vont former Yaakov. Yaakov va partir à l'Eishiva de Shem Ve'ever pendant 14 ans. Ça ne les dérangeait pas l'idolâtrie qu'il y avait autour d'eux? Qu'est-ce que vous en pensez?
Peut-être parce qu'ils voulaient être eux, bécèdes avec eux-mêmes.
Ah, des égoïstes? Ouais. C'est pas des tzadikim alors. Midrash nous dit Kilonis damen laem lishbor absalim. Ça va être pas non plus. Ils n'ont pas eu l'occasion. Ça ne s'est pas présenté. Ils voulaient, hein, ils étaient chauds patates, ils n'avaient pas de bâton. Bah non, ça ne marche pas cette histoire. Zéro Afrouk. Pourquoi Mazelonis damen laem? Parce qu'ils ont compris que s'ils brisaient les psalim, il n'y avait plus du tout de Moussariyut Baola. C'est-à-dire que pour l'instant, le monde n'était pas arrivé à une morale suffisante pour qu'on brise les seuls trucs qui le rattachaient à la morale. C'était d'idolâtrie, c'est pas bien. Mais c'était pour l'instant le seul truc qui les rattachait à une pseudo-morale. Donc tu peux pas leur briser ça. Abraham, il arrive et dit c'est bon. Maintenant, le monde, il est prêt à ce que je brise. Et il a raison, puisqu'il rencontre Aner, Eshkol et Mamré. Donc, il voit qu'il y a des gens qui se sont, oui, élevés à quelque chose. Donc, on peut casser les idoles, il n'y a pas de problème, et je propose un autre truc à la place. Donc, nous dit Manitou, la base de notre rapport à Dieu, c'est la révélation. Mais pour qu'il y ait révélation, il faut qu'il y ait une base morale. Sauf que pour qu'il y ait une base morale, il faut que Dieu, il amène la base de la base morale. Ce qui fait que toi, quand tu viens et que tu prônes ton judaïsme, tu ne peux que prôner un judaïsme révélé. Toute autre forme de judaïsme, aussi intellectuelle soit-il, n'est pas légitime. Il y a une question qui avait été posée un jour, il y avait, je vous invite à le regarder d'ailleurs, il y a une émission, il y a, je sais pas, une vingtaine d'émissions, peut-être une trentaine, qui s'appelait « Arav vers professeur ». Ça en hébreu, mais vous comprenez l'hébreu maintenant. Donc vous pouvez retrouver ça sur YouTube. « Arav vers professeur », c'était des débats entre le Rav Cherki et le professeur Carlo Stringer. Maintenant, bon, le Rav Cherki, vous connaissez un petit peu. Et il est le Rav Cherki. Et le professeur Carlo Stringer, c'est un professeur de philosophie et je crois que c'est philosophie ou voilà, un truc comme ça, à l'université de Tel Aviv, un des grands piliers de Shalom Arshav. Autant te dire, c'est pas exactement le même style que le Rav Cherki. Et donc il y a plein de débats comme ça, plein de sujets où ils vont débattre et ils vont se taper dessus l'un l'autre. Et à un moment donné, il y avait une des émissions, c'était « À qui appartient le judaïsme ?» Et donc le professeur, il a dit « Ça appartient à tout le monde, regardez la société américaine. » Alors Jérémy, il a dit « Aya adout, lo shayechet la datim, vegam lo shayechet la chilonim. » Ça appartient ni aux datim, ni aux religieux, ni aux non-religieux. Il dit « Aya adout, shayechet la rabbanim. » Eh oui. Qui va déterminer qu'est-ce que c'est judaïsme et qu'est-ce que c'est pas judaïsme? C'est ceux qui s'inscrivent dans la tradition de la révélation depuis la révélation. C'est eux les seuls qui sont légitimes pour dire ça, c'est Yahadut, c'est lo Yahadut. Maintenant, dans ce spectre-là, tu peux en mettre plein. Hein. T'as le juif Haredi qui brûle des drapeaux à Yom HaTzmaout. Et t'as le juif qui dit le Hallel avec Bracha le soir de Yom HaTzmaout. Mais les deux sont dans le spectre. Parce que celui qui brûle des drapeaux à Yom HaTzmaout, sur quoi il se base pour faire ce qu'il fait? Sur ses rabbanim et sur des textes qu'il a mal compris, mais qui font autant autorité pour moi. Et moi, je me base sur d'autres textes qui font aussi autorité pour lui. C'est juste qu'il ne les a jamais étudiés. Qu'il ne veut pas les étudier. Mais lorsque tu viens et que tu dis « Oui, bon, bah, c'est vrai, le Rambam, il a dit ça. So what ?» C'est l'homme Echayev. Non, par contre, là, dans le Moré Nevochim, il a dit quelque chose de très important et très joli. Donc, on va le mettre dans notre livre. Mais l'autre truc, non. Donc, le monde Haredi à l'extrême, le monde d'Atile Oumi, la Chassidoute, tout ça, c'est kasher. Avale le monde libéral. Zélo cachère. Et c'est pas que c'est pas cachère parce qu'ils font monter les femmes à la Torah. Parce que s'il venait, même comme Torah, en disant, mais regardez, il y a un psaque de rave truc au XIIIe siècle qui dit que c'est moutard. Alors toi, tu vas dire, non, parce qu'il me cache, c'est d'air. Aval, on pourrait débattre. Mais si tu viens, tu dis, la société a changé. Hein. Certes, les chachamim, ils ont dit des choses, mais ça ne les regarde qu'eux. Et maintenant, nous comprenons autrement. Ah, donc tu ne t'inscris plus dans la tradition de la révélation. Il y a un homme dont je tairai le nom. Parce qu'il m'a demandé de taire son nom, si je racontais cette histoire-là. Qui a téléphoné à Madame Delphine Horwiller, qui est la rabbin en vogue en France, la chef de file du monde libéral en France. Elle dit, écoutez, madame, j'ai plein de questions sur le monde libéral, et voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Parce que j'ai envie de comprendre. Elle dit oui. Ils sont rencontrés, et il m'a dit que c'est une femme très intelligente, machin, mais qu'à un moment donné, il lui a posé une question. Il dit, est-ce que dans le monde libéral, il y a une quelconque itraïvout, la mitzvah ? Le fait qu'il y a une révélation de quelqu'un qui nous a dit, tu dois faire ça. Quelconque. Elle a répondu que non. Qu'au final, non. Il n'y a pas de chiyuv, la mitzvah, dans le monde libéral. Donc en soi, tu t'es détaché de la révélation. Ce n'est pas nouveau. Les chrétiens étaient les premiers à avoir annulé les mitzvot, avec Paul. Le monde libéral n'est qu'une version plus moderne du christianisme. Tout simplement. Donc moi, toi, tu viens et tu dis, non, mais moi, je m'inscris au contraire dans la dimension de la révélation. Et c'est ça qui me donne ma légitimité. Uniquement ça. Donc, alors, si on a dit tout ça, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Ben, il reste à prôner la révélation. Mais attention, pas une révélation partielle, mais une révélation totale. Quel est l'inventeur de l'idolâtrie ? Puisqu'on a dit, on l'a déjà expliqué ça, que l'idolâtrie, c'est une perception partielle du divin. C'est quoi l'idolâtrie ? C'est quand tu prends une des forces de Dieu et tu dis, ça c'est Dieu. Donc qui est l'inventeur de l'idolâtrie ? Avraham ? Tu l'as poussé là. C'est battu Avraham contre l'idolâtrie. Non, l'inventeur de l'idolâtrie s'appelle Enoch. Enoch. Qui était...
Son métier ?
Non, sa généalogie, sa famille, qui était le petit-fils de... Il est tard, hein ? Qui était le petit-fils de Adam Arishon. Ça a l'air ? Enoch, fils de Chet. Et là-bas, on nous dit que Enoch, az uchal likro beshem Hashem. Il a commencé à invoquer le nom de Dieu. Dit le Rambam, début d'idolâtrie. La mamaka. Ki witril l'osiem. Ah, quand tu invoques le nom de Dieu de manière partielle, ça s'appelle l'idolâtrie. À l'inverse de Enoch, arrive Avraham. Et qu'est-ce qu'il y a marqué pour Avraham ? Vaikra b'shem Hashem. Il invoque le nom de Dieu en entier. Et il n'a pas peur de dire au monde Ken, Zakadosh Baruch Hu Natan. Imaginez-vous un premier ministre de l'État d'Israël qui viendrait à l'ONU et qui ne mettrait pas une kippa sur la tête pour lire un verset de Ishayahu, mais qui dirait à l'ONU, haut et fort, la légitimité du peuple juif sur la terre d'Israël n'est pas historique. Elle est divine. Ah, il se trouve que historiquement parlant aussi, on est légitime. Aval, em omrim lahem, kol haaretz shel hakadosh baruch hu, vehu natan leasher yashar be'enav, birtsono natan lahem, ubirtsono netala mehem, ubirtsono natan lanu. Dieu, toute la terre lui appartient, fait ce qu'il veut, il la donne à qui il veut, il leur a donné à eux aux Cananéens et puis il leur a repris et il nous l'a donné à nous. Parce que nous sommes ceux qui sont droits devant ses yeux. Zakol. Imaginez-vous un Mahamat comme ça. Ça me paraît fou, hein.
Ça va pas tarder, je pense.
Mais bien sûr que ça va pas tarder. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Ne pas avoir peur de mettre Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. Car la seule légitimité du judaïsme, c'est la révélation. C'est-à-dire ? Et donc, c'est très très important de bien s'inscrire là-dedans. Et de comprendre que si c'est une révélation, et là c'est le mot de la fin qui ne fait pas plaisir, parce que si c'est une révélation, je ne peux pas aller à la makolet au mitzvot.
Je peux pas aller à la makolet, non ?
Au mitzvot.
Ah, la makolet.
Je ne peux pas aller au supermarché des mitzvot. Je ne peux pas aller commencer à choisir. Ah, celle-là, ça me va. Celle-là, ça ne me va pas. Ouais, dans ça, ça me parle. Ah, ouais, Shabbat, évidemment, ça me parle. Pas de problème. Tzniut. En été, c'est compliqué. Bon. Je ne suis pas encore au niveau. On a le droit de ne pas être au niveau arabe. Hein. On a le droit d'avancer. Tu crois quoi ? Tu crois que c'est facile ? Hein, ça nous rappelle des choses, hein ? Metsouvé. Il y a une révélation et donc il y a un ordre. Il y a une soumission à Kadosh Baruch. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas fauter, qu'on ne va pas tomber. Ça peut arriver de tomber. À Koltov, on va se relever. Mais se rappeler que ma relation au mitzvot, ma relation à la révélation, c'est parce qu'elle a été révélée. C'est-à-dire, ce n'est pas un higayon, c'est une révélation. Et une fois que j'ai compris ça, alors je peux chercher toutes les explications intellectuelles qui vont corroborer cette révélation. Et je termine en rappelant cette histoire. Il y avait, au tout début du XXe siècle, à Berlin, le professeur Hermann Cohen, un des grands, grands philosophes de la fin du XIXe, début du XXe siècle, un juif, Hermann Cohen, mais complètement assimilé. Il était religieux de la religion, de la philosophie académicienne. Et il donne une conférence incroyable à Berlin, où il explique que Emmanuel Kant était évidemment le rav de Moshe Rabbeinu, et qu'en fait, la Torah, la Bible, n'est que une expression de la philosophie d'Emmanuel Kant. Qui est évident que Moshe, il a dû lire la critique de la raison pratique avant d'écrire la Torah. Et puis après, il a écrit la Torah. Et il a expliqué ça, démontré ça de manière magnifique. Et il y avait un juif là-bas qui, en fait, n'était autre, d'après les infos que j'ai, n'était autre que le jeune Yaakov Gordin, qui deviendra le maître du Rav Ashkenazi de Manitou, qui lui a dit, « Monsieur le professeur, dans toute votre explication, où est la place du Dieu d'Israël qui se révèle à Abraham, Yitzhak et Yaakov ? » Et cette phrase-là, elle l'a pris au plus profond de lui. Genre, j'ai bâti toute ma théologie, presque, une théologie philosophique, sur le fait qu'il n'y a pas de révélation. Mais en fait, tout le judaïsme, il est basé sur la révélation. Et il s'est mis à pleurer. Caché. Parce que tu peux essayer de trouver plein de guionotes, plein de réflexions par rapport autour du judaïsme. Mais au final, c'est Dieu qui parle à l'homme. Et c'est ça toute la force du judaïsme. Le fait que toutes les autres cultures post-judaïques se revendiquent tellement de près ou de loin de cela, c'est parce que le fait que Dieu, le Créateur, parle à la créature, c'est ce que recherche le monde depuis qu'il est monde. Et donc, quand il y a une culture, nous, qui le disons, bah, tout le monde a envie d'entendre ça. Donc, tu as raison de dire que, en vrai, le monde attend qu'on se lève et qu'on dise « Ko Amar Hashem ». Ça viendra, Bezrat Hashem. Chazak Baruch !